PTDA.
Voyons.
Ouais. Bon, alors ces deux sigrosés, là, c'est prenez-en dans le tableau, ça vous aidera à l'apprendre. Donc ces deux sigrosés, c'est le récit des événements qui vont déclencher la sortie d'Égypte. Okay. Vous verrez que dans tous les livres de Shemot, toutes les parachutes vont par deux. Vous avez remarqué cela? On a appris cela déjà? Oui, non. En vivant. Donc, Shemot et Vaera, c'est le récit des événements qui vont déclencher la sortie d'Égypte. Le thème qu'il y a là par rapport à ce sujet, c'est que les événements de la sortie d'Égypte sont déclenchés plus rapidement que prévu. Vous vous rappelez de ce thème-là? C'est que la prophétie de l'exil à Abraham, c'était 400 ans. Vous vous rappelez? On a appris ça. Et que finalement, c'est au bout de 210 ans seulement que les événements vont être déclenchés. D'où, du point de vue de ce sujet, le sens du détail du récit. Okay. Bon, je ne me souviens plus si vraiment on a appris ce point-là ensemble. Vous vous rappelez qu'il y a combien de chiffres pour l'exil en Égypte, dans la Torah? 3. Alors on l'a appris. Qui sont les 430, 400 et 210. Bon, 430, ça commence quand?
Oui.
Il
a vécu
entre. D'accord. 400 ans, ça commence quand?
400 ans? Quand Jacob est
en. Alors voilà. 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Israël. Alors vous voyez que vous avez une mémoire égyptienne. 430, ça commence quand?
La bénédiction de la promesse.
Là?
La promesse.
La promesse de quoi?
De l'exil.
Ah, alors on ne peut pas dire promesse. Promesse, c'est en bonne part. Alors qu'est-ce qu'il faut dire?
Confirmation.
Pas confirmation. Confirmation, c'est quand c'est déjà dit qu'on confirme. Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
La promesse.
L'annonce que la promesse. Bon, et une promesse comme ça, on s'en passe.
Okay.
Et donc 430, c'est la prophétie par laquelle il est révélé, dévoilé à Abraham qu'il y aura galout, qu'il y aura exil. Quel est le contexte qui s'en rappelle? Comment ça s'appelle en hébreu? Okay. Tu as étudié ça? Brit ben Avetarim. Je ne sais pas. Bon, vous retrouvez. Et merci. Et 210 ans. À partir de quand? Là, descente de Jacob en exil. Bon, il y a d'autres chiffres qui sont un peu plus en filigrane. C'est en fait, il y a une date importante, c'est la descente de Joseph en exil. Okay. Bon, alors vous voyez le thème. Alors, Shemot et Vaera, c'est donc les événements qui préparent le déclenchement de la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a un problème? C'est parce que ce déclenchement doit se faire avant le temps prévu pour deux raisons. Lesquelles? Premièrement, une raison extérieure, la persécution. Deuxièmement, voilà. C'est clair. Bon. Et vous voyez que c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui en Angola. Ensuite, vous avez Beau Béchalar. Alors là, ce sont les événements de la sortie d'Égypte. Et vous voyez, à deux niveaux. La sortie d'Égypte elle-même, qui est commémorée à Pessah. Et le deuxième niveau dans Béchalar, le passage de la mer Rouge, qui est commémoré le septième jour de Pessah. C'est clair? Bon, tout ça, on reprendra un peu en détail quand vous préparerez la fête de Pessah. Ensuite, il y a Yitro Mishpatim. Et là, c'est la révélation de la Torah. Dans Yitro, la Torah Shebirtav, les 10 commandements. Dans Mishpatim, déjà, le principe de la Torah Shebaalpé, l'application des principes. Il y a donc trois événements, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, la Torah. Alors ça, c'est la première partie du livre. Bon, je ne sais pas si vous avez appris cela comme ça en première partie, mais je vais vous préciser. il y a une tradition que... Je pense que je vous ai parlé de ça quand à Toubichouaf, non? Pas où? C'est peut-être pas cette année, ça doit être l'année prochaine. Si vous prenez les initiales de toute cette série de parashiyot, apparaît un mot qui est le mot Shoraviv. Vous n'avez pas appris ça? Bon. Alors, toute cette période, chaque année, suivez bien, chaque année, toute cette période où on lit ces parashiyot-là, ces sidrot-là, s'appelle la période de Shoraviv. Il y a un rituel particulier dans cette période de l'année qui est connu, enfin, des communautés les plus traditionnalistes où il y a, en plus des prières habituelles, des prières qui se relient à cette période-là. Alors, d'abord, quel est le sens du mot Shoraviv? Qui connaît Shorav? J'entends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Shorav en hébreu? Non, vous connaissez pas le sens du mot. Shorav, ça veut dire très bien. En hébreu moderne, ça veut dire un gosse turbulent, on l'appelle un Shorav. Ça a pris même un sens un peu affectueux. Et Shorav, dans l'hébreu donc biblique, ça veut dire rebelle. Je vais vous expliquer le sens du mot. Ça vient de la racine chou. Quelle? Chou, ça veut dire
revenir.
Alors, de la racine chou, il y a deux substantifs. Le premier substantif, c'est teshuva. Que ça veut dire teshuva? Le repentir. Ça veut dire que, vous suivez, on revient sur ce qui a été fait, que de l'étaken auto. Mazotomeret, l'étaken, pour réparer. Il y a un deuxième substantif, c'est meshuva. Et meshuva, tu connais ça déjà par cœur? Alors, moi. Meshuva, ça veut dire revenir sur ce qu'on a fait pour le recommencer. Juste le contraire. Vous y êtes? C'est ça la notion qu'on traduira par rebelle. C'est clair? Vous vous rappelez du schéma de la teshuva? Il y a eu un chemin droit et on s'est écarté. Alors la teshuva, c'est revenir, c'est là, revenir là où on s'est écarté pour reprendre le chemin droit. Ça, c'est la teshuva. Okay? La meshuva, c'est revenir là où on s'est écarté, mais pour recommencer la même erreur. Revenir sur l'action pour la refaire une fois de plus. Alors que teshuva, c'est revenir sur l'action pour la réparer. Récidive, très bien. Bon, alors l'adjectif de ce substantif meshuva, c'est l'adjectif shovav. Celui qui est shovav, ça veut dire qui fait le contraire de la teshuva, qui s'appelle la meshuva en hébreu. Ça y est, c'est clair? Bon, comment serait l'adjectif de teshuva? Comment on dit ceux qui reviennent, et non pas ceux qui récidive. Toshav. Ça, c'est un peu araï. Non, je vous demande l'adjectif, je ne vous demande pas une paraphrase. La prochaine fois que le peuple d'Israël oubliera l'hébreu, on te demandera de le réinventer. Shavim, très bien. Shavim, c'est au pluriel. À quoi tu penses en disant Shavim? Non, il y a un passou que tu as dû apprendre. Yatra Peshuta Lekavel Shavim. C'est pas ce passou que tu savais. Ton grand-père, il savait. Bon, effectivement, l'adjectif c'est Shav au singulier et Shavim au pluriel. C'est clair? Bon, ne confondez pas avec Shavim, c'est ceux qui reviennent. Shav, Shavim. Shovav, Shovavim, c'est ceux qui récidivent. C'est clair? Bon, tous ces mots que vous apprenez, ajoutez-les à votre vocabulaire. Hein? Ne confondez pas ce mot Shavim avec un mot Savim. Shavim, le point est là. Savim, le point est là. Qu'est-ce que ça veut dire Savim avec le point là? Avec le signe toujours. savez ou vous ne savez pas? Ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le grand-père. Comment tu cries ça va, le grand-père? Avec un samer. Okay? C'est un mot arabien. Et un mot hébreu correspondant qui est ça va, et qui veut dire aussi le vieillard. Alors, Savim, c'est le vieillard. Shavim, c'est ceux qui reviennent. Il y a une leçon de morale qu'on a l'habitude de donner. Il ne faut pas attendre d'être vieux pour faire tchouva. Vous voyez, Shavim, Savim. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a dans un poème de Judas Lévi une très jolie chose où Judas Lévi demande « Donne-moi la force de me courber avant que ce soit mes os qui se courbent. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors je reviens au problème. Alors pourquoi on a appelé cette période, vous voyez, du mot qui apparaît là, Shavim? Parce que cette sortie d'Égypte a été si difficile parce que les Hébreux étaient rebelles à la sortie d'Égypte. Vous voyez, l'idée est très simple. Tout ce qui nous est raconté là, c'est tout ce qui a dû se passer dans la stratégie de l'histoire pour que la sortie d'Égypte soit possible. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que les Hébreux étaient Shovavim, alors il s'est passé tout ça. Vous voyez la relation? Bon. Alors ensuite, on arrive à la deuxième partie du livre de Shmuel. Vous avez d'abord Teruma Tetzavé. Ça va encore ensemble, comme Zouk, c'est-à-dire un couple de sidrotes, les Zougiyut. Ce sont les deux sidrotes. Quel est le sujet de ces deux sidrotes, Teruma Tetzavé, ce qu'on a lu donc, la construction du tabernacle. Okay. Ensuite, il y a la sidra de Fitisla, qui est précisément un effet exception, apparemment, dans tout ce tableau, et où le sujet principal, c'est la faute du veau d'or, dont on va commencer à étudier un peu maintenant, c'est clair. Et après, vous avez deux autres sidrotes, Vayakhev, Pekudé, où on reprend les lois concernant la construction du Mishkan. C'est clair pour tout le monde? Alors vous avez donc la série des Shovavim, c'est ce qui s'est passé pour que la sortie d'Égypte soit possible, et on aboutit à la révélation de la Torah. Okay. Et ensuite, nous avons la deuxième série des sidrotes concernant la construction du Mishkan. Ce sujet est très important. Je vais vous le formuler très brièvement, mais nous aurons à l'étudier à plusieurs occasions. C'est que la cohérence de l'ensemble du récit du livre de Shmot montre que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était la construction du Mishkan. C'est clair? Et alors là, il y a un phénomène qui apparaît là, enfin un fait de structure dans le récit, qui va nous servir d'introduction à notre sujet, c'est que il y a une première fois, les lois sont données pour la construction du Mishkan. Et puis voilà qu'il arrive une catastrophe, la faute du veau d'or. Alors les lois de la construction de ce même Mishkan sont reprises dans un autre sens. Et voilà quel est le thème que nous allons étudier. A priori de la faute, la fonction du Mishkan, qui est la préfiguration du Beit HaMikdash, okay, c'est parce que ce peuple était rebelle qu'il a fallu qu'il ait une sorte d'éducation supplémentaire dans les 40 ans du désert, qu'il y a eu cette parenthèse des 40 ans du désert. Sinon, directement de l'Égypte, il serait rentré en Eretz Israël. Et par conséquent, il n'y aurait pas eu ce Mishkan provisoire, une sorte d'apprentissage. Le Mishkan, c'était le temple dans le désert, le tabernacle dans le désert. Il y aurait eu directement la construction du temple à Jérusalem. Vous voyez? Et donc, a priori de la faute, la fonction du culte dans le temple n'était pas la fonction d'expiation. Mais a posteriori de la faute, la fonction du culte dans le temple deviendra aussi la fonction d'expiation. C'est-à-dire que nous avons là un thème extrêmement important. A priori, l'objectif du culte dans le temple, qui est le culte des sacrifices, okay, n'était pas l'expiation. Et Mais cette dimension de la fonction d'expiation va apparaître a posteriori de la faute parce qu'il y a eu faute. Vous suivez ? Alors, j'essaie de voir dans vos yeux si c'est clair. Alors, d'après vous, quelle devait être la fonction du temple ? Enfin, du temple, c'est bon, en français me gêne. Enfin, du Beth-Amigdash, temple, je me vois protestant, je proteste. A priori de la faute. Maintenant que nous sommes habitués à l'idée que la fonction du sacrifice, c'est en hébreu kapara, c'est-à-dire, d'accord ? Oui, je vais mettre ça. Enfin, je vais rentrer au grammaire.
C'est quoi en arabe,
en judéo-arabe. C'est-à-dire, ça vient de l'hébreu dans le judéo-arabe. Kapara, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le même mot que kippour, kippourim. Okay. Mais pour notre sujet, je ne vais pas vous donner tout les sens du mot kapara, ça veut dire expiation. Donc nous aurons à étudier ce sujet pour lui-même, en quoi le sacrifice est le culte de l'expiation. Okay. Et vous verrez que nous sommes gênés par le mot français de sacrifice. En hébreu, le terme a une toute autre signification. Mais provisoirement, puisqu'on parle des sacrifices, gardez avec la signification habituelle. Il s'agit du même acte, mais le mot de sacrifice a un tout autre sens en français, ça vient du latin, des païens. Mais on verra ça après en hébreu, korban, qu'est-ce que ça veut dire. Alors maintenant, nous sommes habitués à ce principe que la fonction des sacrifices, c'est l'expiation de la faute. Et dans tout sacrifice, il y a des rites de sacrifice très différents. C'est une chorma pour elle-même. Il y a autant de sortes de rites de korban, qu'on traduit sacrifice, qu'il y a de conduite dans la conduite humaine. C'est une science pour elle-même, à laquelle d'ailleurs on est très peu habitué, parce que ça fait 2000 ans que le temps n'existe plus. Et au bout de 2000 ans, on s'est complètement déshabitué à comprendre quoi que ce soit de ce culte-là. Mais ce que vous apprendrez, je vous l'annonce un peu à l'avance, mais vous aurez une étude pour ça en particulier, c'est que le seul culte normal de la loi de Moïse, c'est le culte des sacrifices. La prière, c'est autre chose. Rappelez-vous ce qu'on a appris de la prière. Okay? C'est-à-dire le culte matim, comment dire, matim, shayach, okay? à cette religion de la loi morale, c'est les sacrifices. Okay? Et on comprendra pourquoi lorsqu'on étudiera cela. Mais nous sommes surtout habitués à l'idée que ça veut dire expiation. C'est clair ? Je vais quand même vous donner un principe de ce problème déjà aujourd'hui. Mais je pose d'abord ma question. Et a priori de la faute, qu'est-ce que serait que cet avoda, ce culte du temple ? Du temple, oh, pardon, Od, du Beth-Amigdash.
Si on pense à Mishkan, il y a la racine Shrina. Ça aurait pu être une demeure pour la présence divine.
Bon, la demeure pour la présence divine, c'est ce que Dieu fait. C'est pas ma question. Ma question, c'est en quoi consiste le culte des korbanot dans le Mishkan. Si la fonction n'est pas kapara, alors je vais vous poser comme question. Réfléchissez. Okay. Et on verra ça dans les autres cours. Ma question est très claire. A posteriori de la faute, il y a la dimension de kapara qui apparaît. A priori de la faute, quel était le sens ? Je vais simplement vous expliquer cette fonction de kapara. Et pour expliquer ce que je viens de dire, c'est que la avoda, le culte normal de la loi de Moïse, c'est les sacrifices. Dans la fonction d'expiation. Mais c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que, et ça se relie d'ailleurs au problème de la tshuva, du repentir, ça veut dire, si j'accepte d'être jugé par la loi morale, et habituez-vous bien à cette idée, la seule tradition religieuse où la morale et la religion coïncident, et je ne vous le répéterai jamais assez, et c'est la tradition de la Bible. Bien entendu, elle n'est authentique que dans la tradition du judaïsme, en fait, disons, de la Bible en général. Partout ailleurs, la morale et la religion sont séparées. Même si ça se recouvre dans certaines conduites, mais en principe, la conscience humaine, en dehors d'Israël, a séparé la religion et la morale. Prenez par exemple un titre célèbre, d'un livre célèbre, d'un philosophe célèbre. Les deux sources de la morale et de la religion. Oui, les deux sources de la morale et de la religion. De qui c'est ça? Vous êtes une ignorance encyclopédique. De qui c'est ce livre? D'où vous sortez? Du désert du Sahara? Bergson, ça vous dit quelque chose? Bon. Et vous voyez, comme il est d'origine juive, il a vu le problème, mais il a parlé comme un goy. Les deux sources de la morale et de la religion. Et là, et par conséquent, si j'accepte d'être jugé pour le sens de ma destinée par la loi morale, je suis devant un problème insoluble, parce que je sais très bien que ce qui me définit comme homme, c'est la liberté, et donc la liberté, c'est le risque de la faute, et par conséquent, à la première faute, je risquerais d'être condamné, s'il n'y avait pas la soupape de l'expiation. Et expiation, ça me gêne en français, de la capara. Littéralement, originellement, le sens, ça veut dire recouvrir. Cette capacité de recouvrir la faute. Les rappeurs, c'est d'abord recouvrir, en hébreu. Bon, le sens ici pour notre sujet, c'est expier. Vous avez compris le lien? Ça veut dire, dès que le principe de la loi de Moïse apparaît, alors il apparaît comme relation nécessaire que le culte, c'est donc le culte de l'expiation. Il n'y en a pas d'autre. La prière, c'est autre chose. La prière, c'est autre chose, c'est quoi? C'est une toute autre stratégie spirituelle qui consiste à demander une bracha supplémentaire à ce qu'il y a dans mon monde. Rien à voir avec le problème de la avoda, qui est celui de l'expiation. J'ai compris. Cette idée que la prière c'est le culte par excellence est très dérivée. Bon, mais ça on l'a étudié au début de l'année. Faites un effort de mémoire. Bon, alors voyez donc quel est le problème. A posteriori de la faute, et c'est prévu a priori, mais ça ne se dévoile a posteriori que dans les deux sidros d'après qui dit ça. A posteriori de la faute, la avoda, le culte, va prendre la dimension de l'expiation. Mais a priori de la faute, qu'est-ce que devait être le culte? Qu'est-ce que devait être la avoda? La avoda, comment dire, compatible avec Torah Moshe. Bon, je vous pose la question, je ne réponds pas aujourd'hui, mais réfléchissez au problème. Alors, je reviens à notre, à notre question. Vous allez un peu percevoir l'importance du problème, c'est que tout se passe comme si se produit au moment de la sortie d'Égypte, pour cette génération qui est sortie d'Égypte, et qui est le commencement de l'histoire d'Israël comme nation, se produit à l'échelle collective la même chose qui s'est produite à l'échelle individuelle. À quel niveau? Au temps de... Vous avez compris le sens de ma question? Pas encore. Nous voyons qu'ici se produit un événement à l'échelle collective qui est très analogue à ce qui s'est produit à l'échelle individuelle au commencement de l'histoire de l'humanité. L'histoire collective d'Israël commence sur un rythme parallèle à l'histoire de l'humanité entière avec la faute du premier homme. Vous voyez? Tout se passe comme s'il y a ici une espèce de péché originel, hein, mais mettez ça entre 14 guillemets, du commencement de l'histoire d'Israël. Il y a quelque chose qui va handicaper dès l'origine et qui va nous accompagner jusqu'à la fin du temps. Et c'est très parallèle à ce qui se passe au début de l'histoire de l'humanité avec le Chet de Adam Rishon, le fait que l'histoire de l'homme commence avec une faute. Mais, enlevez de votre mémoire tout ce que les chrétiens ont pu dire sur l'histoire du péché originel. Nous allons retrouver cette notion, mais elle n'a pas du tout la même signification que dans la théologie chrétienne. Je veux dire essentiellement, pour la théologie chrétienne, nous naissons damnés de la faute du péché originel. Ok? Est-ce que c'est clair? Ce qui est une notion monstrueuse. Ouais, c'est la catégorie de base d'une telle théologie est d'une injustice colossale. Ça veut dire que, incompréhensible, je ne comprends pas comment ces gens-là, je comprends très bien, mais arrive à fonctionner de façon aussi aberrante. Okay. Quand ils se prétendent juifs, il y a une différence. Nous, c'est le juif errant, c'est le juif aberrant. Mais pour en donner simplement une indication, alors l'ancêtre de l'humanité, le premier homme, aurait fait une faute, et d'ailleurs c'est une histoire de fou, qu'est-ce que c'est cette faute qui consiste à manger une pomme? Et puis l'humanité entière serait dans les souffrances de l'enfer qu'est l'histoire du monde à cause du fait que l'ancêtre a mangé une pomme. Dans la tête de qui ça peut rentrer? Vous voyez comment ça fonctionne de façon absolument païenne, incompréhensible. C'est clair? Non. En fait, ce qu'il y a d'originel dans la nature humaine, c'est la liberté, c'est-à-dire la capacité de fauter, et non pas la fatalité de fauter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un faute, il commence à faire la faute de l'origine. C'est en ce sens-là seulement qu'on peut garder en français, en tout cas, l'expression « la faute origine », le péché originel. Ça veut dire le péché de l'origine de tout péché. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je dis? Bon. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'analogue. D'où l'importance de ce récit. C'est-à-dire que dès le commencement de son histoire, le clan d'Israël va être handicapé par ce qui se passe là. Et c'est donc très parallèle au récit de la faute du premier homme. Mais pensez les choses en dehors des catégories de la damnation de la théologie chrétienne. Bon. Alors, nous allons quand même aborder rapidement la lecture du texte. Mais rappelez-vous donc cette question qu'on reprendra. Quel serait le sens de la avoda, a priori de la faute? A posteriori de la faute, il prend une notion de kapara. Okay? Alors essayez de découvrir par vous-même la notion complémentaire qui serait l'objectif de la avoda, a priori de la faute. Bon, alors vous allez prendre le texte. Bon, j'espère que vous avez en tête le récit, en tout cas, même grosso modo. Vous allez donc prendre le texte au chapitre 32. Nous allons commencer le texte à partir du verset 7. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue des événements historiques dans lesquels s'insère cette scène, cet événement qu'on appelle la faute du Vaudor? On va avoir une première question de vocabulaire. Vous savez que lorsqu'on emploie cette expression en français, la faute du Vaudor, elle a été utilisée par le vocabulaire de l'antisémitisme pour relier avec l'accusation que les juifs sont cupides et qu'ils recherchent l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Cette expression, le mot d'or, c'est-à-dire la banque, le commerce, ça n'a aucune base dans le récit. En fait, c'est tout à fait différent. Il y a ici le fait qu'on a fabriqué une idole. Et comme ces idolâtres-là, c'était des gens pieux, leur idole, ils l'ont faite en or. Mais il ne s'agit pas de l'or, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? La gravité de la faute, c'est dans le veau, c'est pas dans l'or. Okay. Bon, le fait que l'idole soit en or a un sens, on l'étudiera peut-être d'autre part, je ne veux pas trop mélanger les choses. Si on avait fait la statue en argent, ou en airain, ou en bronze, ou en cuivre, ça avait un sens différent dans la chorma de l'idolâtrie. Vous comprenez, quand les idolâtres avaient une statue en bois, ou en pierre, ou en or, ça a un sens différent. Mais ça, laissons ça de côté. En fait, c'est le fait d'avoir fait une statue. Et pour qu'on puisse aller vite dans le récit, ce que nous allons apprendre ce matin, c'est que ceux qui ont fait cette faute du veau d'or, d'abord, ce n'était pas les Hébreux, première chose que vous allez bien noter, ce qu'on va d'abord étudier, ce n'était pas du tout les Hébreux. Deuxièmement, vous voyez toutes les calomnies qu'on va essayer de démythifier. Okay, deuxièmement, ce qu'ils ont voulu faire, ce n'était pas du tout une idole pour remplacer Dieu lui-même qui s'était révélé au Sinaï, mais pour remplacer Moïse. Ça, peut-être, vous l'avez déjà appris. Avec moi ? Donc, je ne me rappelle pas quand, mais enfin, je
suppose. Non, comme ça.
Bon, en passant, d'accord. Et ça, nous allons le voir très exactement dans le texte. C'est-à-dire qu'il y avait là, si vous voulez, une sorte de, déjà avant la lettre, une sorte de faute qui avait été le fait d'idolâtrer Moïse. Ce qu'on appelle aujourd'hui le culte de la personnalité. Et quel est l'événement ? Avec quel type d'idolâtrie il y a ici ? Ne vous trompez pas. Dans tous les cas, premièrement, ce n'est pas les Hébreux. Et deuxièmement, nous allons voir qui a fait cela. Mais deuxièmement, la faute en question ici, ça avait été d'avoir divinisé Moïse. Ce qui se révèle dans la faute du veau d'or, c'est que la partie du peuple qui accompagnait les Hébreux, qui a fait cela, avait une faute préalable, c'était la tendance à diviniser Moïse. Et ce qui est la définition même de l'idolâtrie que reprendra le christianisme, d'ailleurs. Vous voyez comment ça marche en fait. Okay. Je pense que c'est clair. Là, il faudrait que j'ouvre une parenthèse, mais je vais la faire très rapide, sur le problème de la personnalité de Moïse dans le récit de la Bible. Vous avez remarqué cela, que c'est finalement la seule tradition qui n'a pas divinisé, idolâtré le héros fondateur. Okay. Ça aurait été un peuple goy qui avait eu un Moïse à sa tête, il y a longtemps que le culte de ce peuple-là aurait été l'adoration de Moïse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être que vous avez dû, moins par allusion, étudier cela avec Benno Gross sur le Kuzari, non ? On n'a pas fait allusion à ce problème-là de la faute du veau d'or. Et au point que il est nécessaire qu'on ne sache pas où Moïse est mort ou enterré, parce qu'on aurait risqué un culte du Saint-Sépulcre, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Au point que on va même risquer une sorte d'ingratitude vis-à-vis de Moïse, on retrouvera cela, mais intentionnellement, pour éviter ce culte de la personnalité, dans le récit de la Gada de Pessah. Le nom de Moïse n'apparaît pas. Pour pas qu'on croie que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors que dans l'événement historique, c'est grâce à Moïse qu'on est sorti d'Égypte. Mais pour pas que ça se charge d'une idolâtrie mystique, alors pas d'allusion à Moïse. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de vous familiariser avec cette idée. Il y a un cas particulier où on voit, il n'y a que dans l'islam qu'on retrouve cela, donc c'est vraiment de la tradition abrahamique, hein, que le prophète qui transmet la révélation de Dieu, se met entre parenthèses, et est mis entre parenthèses, pour ne pas risquer l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Oui. Jamais. Un musulman authentique est complètement en dehors de ce risque de l'idolâtrie. Par exemple, chez les mystiques musulmans, vous connaissez la... D'abord, il n'y a aucune histoire de tombe de Mahomet.
Non, la dent de Mahomet.
Ah, la dent. Ça, c'est... Ça, c'est des superstitions que vous trouvez partout. Mais la théologie musulmane authentique est pure de toute idolâtrie de ce genre. Okay. Et ce qui n'est pas le cas chez les chrétiens, là, c'est plein de ces impuretés. Okay. Chez les mystiques musulmans, qu'on appelle les soufis, vous avez entendu parler. Bon, ils ont des kavanotes. Vous savez quelle est la formule. Les hindous disent le mantra, comment on dit en français. Hein ? Non, ça c'est les indiens, les hindous. C'est en sanskrit, mais comment on dit en français ? Bon, enfin, ouais, l'incantation. Hein ? De la formule, la profession de foi de l'islam, c'est « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Hein ? » Et dans la kavana de leur... méditation à ce moment-là, je parle des mystiques musulmans, alors ils ont toute une processus de Kavana d'unification de la personne humaine dans la formulation de la première partie. C'est-à-dire qu'ils prennent une inspiration et ils disent « il n'y a de Dieu que Dieu » avec un cheminement intérieur que je ne donne pas le détail. Et ensuite, le résultat de l'inspiration, c'est l'expiration. C'est le geste de rejeter le déchet. Alors, dans leur kavana, ils ont « il n'y a de Dieu que Dieu », c'est l'inspiration. Et Mahomet et son prophète, ils rejettent ça comme déchet. Ça va jusque-là. Vous avez compris un peu le sens de la kavana. Et je parle d'un musulman authentique. Okay. Ça existe. Et alors, là, et rien à voir avec l'impureté des kavanot des chrétiens, qui pour eux, c'est l'homme-dieu, le dieu-homme, divinisé, l'idolâtrie absolue. Okay. Alors, de quoi je parlais juste avant? Oui, c'est que la faute est d'abord la divinisation de Moïse. Okay. Quel est l'événement? Donc, deux points que nous avons étudiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les Hébreux qui ont fait ça. Deuxièmement, que la faute a consisté dans la divination de Moïse. Comme vous le savez, rappelez-vous donc ce principe, dans toutes les traditions religieuses, sauf la Torah bien sûr, et l'islam avec, à ce niveau-là, le fondateur de la religion ou de la tradition a toujours été divinisé. Vous remarquez ça. Il y a des mêmes comme une culture aussi athée apparemment que le marxisme a divinisé ses héros. Elle les a embaumés, comme dans l'Égypte, le culte de la personne alitée dans les sarcophages du Kremlin. Et là, une véritable église, hein, avec les mêmes idolâtres. Je sais pas, maintenant ça a changé un petit peu, mais quand j'avais votre âge, il y avait un culte de Staline dont vous n'avez aucune idée, le petit père des peuples, j'ai entendu parler de cela. Et alors les communistes orthodoxes, mais c'était plus que jamais, aucun idolâtre n'a jamais idolâtré son idole. Okay? Ou ce qui a risqué de se faire avec Mao en Chine. Enfin, oui, cette espèce de mentalité de l'idolâtrie absolue de la personne alitée. Okay? טוב, זה העניין אחר, אני לא רוצה לקשור את זה. החסידות היא תאורה מזה. כן? זה היה פחד מזה. כן? אבל החסידים הצליחו. זה קרה עם השבתאות, לא עם החסידות. נכון שהם פחדו מזה, אבל סוף סוף הם בערך שהחסידים הם יהודים, קשרים. כן?
אבל זאת הייתה הטענה של
הטענה, אבל זה, מה אומרת הגמרא? פוסל, במומו פוסל. המתנגדים יש להם תכונות כאלה. מבינים את זה. Bien, je reviens donc au problème. Qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, c'est deux points. Okay? Alors, nous allons tout de suite voir le deuxième point. Vous allez noter attentivement la référence. C'est-à-dire qu'en réalité, il voulait une idole comme substitut de Moïse. Et vous allez prendre le premier verset du chapitre 32. Vous allez le suivre avec moi très rapidement. Oui, mais quel est l'événement historique qui fait l'écran de ce problème? C'est que on a eu la révélation du Sinaï, et Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir la Torah. Or, il leur avait donné rendez-vous 40 jours après. Et on apprend, je vous montrerai d'ailleurs dans le texte, que Moïse va tarder de 6 heures sur le compte qu'ils attendaient. Okay. Et alors, panique. On est perdu. Et je vais donc vous expliquer ça déjà ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Et Moïse leur a donné rendez-vous, dans 40 jours je descends. Donc ils avaient un compte astrologique différent. Okay. Et puis voilà que... Vous avez appris cela déjà? C'est l'air. Et voilà que... bon, il y a un décalage. Ils ont cru que Moïse a tardé. Et ils se sont dit, bon, il est monté au ciel. C'est un personnage divin. Il nous a quittés, il ne revient plus. On va lui faire un culte. Vous y êtes ? Vous suivez bien ce qui se passe. Hein? Ça veut dire que vraiment la racine de la faute, c'était la relation qu'ils avaient à Moïse. Et c'est une des raisons, d'après la Kabbalah, pour laquelle le nom de Moïse va disparaître. Des parachiotes dans Tetzavé, surtout, qui parlent de la construction du temple. Parce que finalement, je vais un peu exagérer, mais vous nuancerez. La faute, c'est ceux qui ont idolâtré Moïse, mais il y a une relation de Moïse à cette faute, puisque c'est lui qui a été idolâtré. Okay? Vous suivez? Et c'est pourquoi son nom va disparaître des parachutes de la construction du Migdash. Je vous ouvrirai une plus grande parenthèse maintenant, parce que c'est important. Nous avons une tradition de la Kabbalah. C'est que chaque Neshama a sa lecture de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, ne les comptez pas parce que vous ne les trouverez pas. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 Neshamot en Israël. Chaque Neshama a sa lecture de la Torah. Okay? Vous savez qu'il y a quatre lectures de base. Vous avez déjà appris ça, le Pshat, le Remez, le Sod, le Drash. Okay? Le Drash, le Sod. Et comme il y a 600 000 âmes, 4 par 600 000, ça fait 2 400 000 sens fondamentaux d'un verset. Et ça change tous les jours. Alors voyez le nombre de lectures que nous avons de la Torah. Vous impressionnez pas? C'est comme ça. Et alors, et donc chaque Talmid Chacham a son pirouche de la Torah, chidouche de la Torah. Mais nous savons par tradition que il y a une sidra qu'il ne voit pas, c'est la sidra de la semaine de sa mort. Vous suivez? Par exemple, si on prend le pirouche de n'importe quel Talmid Chacham, et en principe, chaque rabbin a son pirouche de la Torah. Il a le temps de l'écrire, il n'a pas le temps de l'écrire. Les livres sont restés, les livres ne sont pas restés, mais nous avons des milliers de milliers de milliers de pirouchim de la Torah. Et chaque fois, la règle joue, il y a une sidra qui est vide. Et Davka, c'est la sidra de la semaine de sa mort. Il ne le sait pas à l'avance, mais il ne s'en rend même pas compte. Mais oui, il s'en rend compte. Bon. Et alors, précisément, c'est dans cette paracha que est situé le jour de la naissance et de la mort de Moïse. Moïse a vécu 120 ans exactement, donc le jour de sa naissance et de sa mort. On étudiera tout ça à propos de Pourim d'ailleurs. Et c'est le 7 Adar qui a l'anniversaire de la mort de Moïse. Bon. Et alors, dans cette paracha de Tetzavé, le nom de Moïse disparaît. Une espèce de relation, une espèce d'allusion. Bon, refermons la parenthèse. Vous voyez comment la relation se fait. C'est que, étant donné que la faute du Vaudor a été l'idolatrification, je ne sais pas comment dire, la divinisation de Moïse, par conséquent, il est nécessaire que le nom de Moïse disparaisse des mitzvot concernant le culte de la construction du Mishkan. Vous comprenez le problème? On le reverra sous d'autres formes encore. Bon. Alors, je lis le verset 1 avec vous du chapitre 32. Vayara am ki boshesh Moshe la redet minar. Et le peuple vit que Moïse tardait. Boshesh, ça veut dire tarder. Mais regardez que dans boshesh, il y a shesh. C'est là que le Midrash enseigne 6 heures. C'est shesh. Vayara am ki boshesh Moshe la redet minar. Et le peuple vit que Moïse tardait de descendre de la montagne. Vaïkahel Aham ala Aaron, et le peuple s'est rassemblé contre Aaron, Vayomru, Elav, et ils lui dirent Koum, lève-toi, c'est-à-dire décide-toi, Koum. Aselanu Elohim, et je vous dis Elohim et pas Elohim, parce qu'ici il s'agit d'un mot qui n'est pas Kodesh, Kechol. Fais-nous un dieu. Asher Yelechou, et regardez ce pluriel. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, qui zé Moshe Aïch. Car Moïse, cet homme, Asher Elanu Meret Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadarnu Me'ayalo. Nous ne savons pas ce qui lui est devenu. Ce qui est devenu de lui. Vous voyez? Alors, vous voyez que l'intention est claire. Okay? Plus tard, vous apprendrez que le mot de Haïch, quand il est après le nom propre, c'est une des catégories des anges. S'il y avait Haïch, Moshe Haïch, c'est pas le même sens. Mais plus tard, vous apprendrez tout ça. C'est-à-dire, ils ont vu Moïse comme un personnage légendaire, divin, descendu du ciel, une espèce de héros fondateurs de religions, comme dans les religions gnostiques, comme dans les religions à mystère. Okay. Et puis, ce Moïse-là est monté, rendez-vous avec Dieu, il n'est pas redescendu. Alors ils se sont dit, ben ça y est, c'est le héros fondateur, on va le symboliser dans un culte. Il nous faut un substitut de ce Moïse qui n'est pas redescendu. Vous suivez? Vous voyez à peu près le problème. Et ensuite, nous verrons d'autres dimensions du contenu de cette faute, mais c'est là la première qu'il faut bien retenir. Et puis, maintenant, j'arrive au deuxième point que je vous ai dit le premier, que ce n'est pas les Hébreux qui ont fait cette faute. Et pourquoi les Hébreux vont être atteints par cette faute? C'est parce qu'ils n'ont pas été capables de l'éviter. Mais alors, qui a fait cette faute? Alors ça, vous allez prendre le verset 7. Donc. Pendant qu'au bas de la montagne se produit cela, que ce culte de Hodor est installé, Vaïdaber Hachem El Moshe, verset 7, Zaïn, okay? Dieu dit à Moïse, Lech Red, va, descend, qui shichet amcha, car ton peuple, Asher Elit, la mère d'Israël, que tu as fait monter du pays d'Égypte, shichet, va dire à faute. Alors je vais vous étudier cette expression, ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit, il se passe quelque chose en bas, ton peuple à toi, que tu as fait monter du pays d'Égypte, a fauté. Première expression sur laquelle vous allez bien réfléchir, c'est que chaque fois qu'il s'agit de la sortie d'Égypte des Hébreux, il n'est pas dit monter.